n'ira pas aller chercher les enfants handicapés pour faire des activités, c'est nous, parents, avec des associations ou d'autres structures, qui devons faire le nécessaire.
Il n'y a rien à faire, en fait. Du coup, on propose un accueil jeune. Tu peux venir ici pour te détendre ou pour t'amuser.
Ce que j'aime dans la lecture, c'est que quand on met de l'émotion dedans, c'est comme si on faisait aussi du théâtre.
Il y a pas mal de personnes qui pensent comme nous sommes des étrangers. Il y a plus de négativité que de positivité en nous. On est venu ce soir pour montrer notre face positive.
On passe du stade d'un combat féministe à vraiment à un combat sociétal.
À vous, les Burgiens. Présenté par Inès Lombartet et Audrey Radondi. Bonjour à toutes et à tous. Nourrir l'espoir, ne pas subir. Ce documentaire donne la parole à des femmes de la communauté Emmaüs. Il sera projeté ce vendredi 25 novembre à Bourg pour la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Son réalisateur et une militante féministe sont nos invités. Nous partirons ensuite dans la Dombe à la découverte d'une abbaye méconnue. Et dans quelques instants, on vous présente des idées de sortie dans l'Ain.
Bourg, en bref.
Une semaine bien pluvieuse en perspective, mais ne vous inquiétez pas, on vous a fait une sélection d'événements pour vous distraire. Le festival La Balade des Cours commence ce mardi 22 novembre et jusqu'à samedi, au programme des séances pour découvrir le meilleur des courts-métrages repérés par l'association Le Zoom. Les séances coûtent entre 5 et 20 euros et ça se passe à La Grenette, à Bourg-en-Bresse. Plus d'infos sur www.le-zoom.com. Le Café Philo est de retour chez La Jeanne à Bourg-en-Bresse. La prochaine séance aura lieu jeudi 1er décembre de 20h à 22h aux 4 rue Victor Bache. Le thème « Les pratiques artistiques transforment-elles le monde ?» Entrée libre et gratuite, moyennant au moins une consommation. Et les organisateurs lancent un appel aux artistes amateurs et professionnels de toutes disciplines pour participer à cette rencontre et l'enrichir de leur expérience. Vous pouvez contacter Charles Vieudrin au 06 63 30 81 01. Jusqu'au 4 décembre, c'est le Festival des Solidarités partout en France. Et dans l'Ain, il est organisé par le collectif Bresse Revermont cette année. L'objectif est de défendre les droits humains. Ce vendredi 25 novembre à 18h, une scène ouverte de poésie est organisée et ça se passe à la MCC. Toute la programmation est à retrouver sur le www.festivaldessolidarités.org. Et encore un festival, celui de la BD dans l'Ain. Vous pourrez y retrouver de nombreux auteurs français, belges ou italiens et visiter différentes expositions, notamment une sur les mangas. Des ateliers créatifs sont aussi organisés. C'est ce week-end du 26 au 27 novembre à Valserone. Toutes les infos sur www.bddanslain.fr. Bientôt les fêtes de fin d'année. La traditionnelle parade lumineuse de la ville de Bourg aura lieu le samedi 3 décembre à 17h, avenue Alsace-Lorraine. Et ce sera aussi l'ouverture du marché de Noël, place des Bons Enfants. Pour faire vos achats, les commerçants de l'association Centre Commerce Bourg vont ouvrir leurs portes les dimanches 4, 11 et 18 décembre. Alors voilà quelques idées pour vous occuper ces prochains jours.
L'invité de Radio B.
La journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, c'est ce vendredi, le 25 novembre. Un collectif et des structures locales organisent une soirée spéciale au Conservatoire d'agglomération à Bourg-en-Bresse. Le documentaire « Nourrir l'espoir, ne pas subir », qui donne la parole à des femmes d'Emmaüs Bourg-Servas, sera projeté. Son réalisateur et une militante féministe, membre du collectif Solidarité Migrants, sont nos invités.
Nourrir l'espoir, ne pas subir. Nourrir l'espoir, ne pas subir. Nourrir l'espoir, ne pas subir.
À l'occasion du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, les femmes d'Emmaüs, invisibles et puissantes, prennent la parole. Toutes vivent et travaillent tous les jours ensemble, certaines avec un passé douloureux de victimes de violences, d'exploitation. Contraintes à l'exil, elles attendent la boule au ventre d'accéder au droit de circuler pour revoir leur famille, pouvoir vivre à nouveau avec leurs enfants. Ces femmes, elles sont compagnes, salariées ou bénévoles avec des parcours, des histoires différentes. Elles sont toutes animées d'un même désir, lutter pour une vie digne, faite de solidarité. Pour que les droits des femmes avancent ici et ailleurs, la liberté de circulation, article 13 de la Déclaration des droits humains, doit être un droit pour toutes et tous. Écoutons-les. Nourrir l'espoir, ne pas subir. Nourrir l'espoir, ne pas subir. Nourrir l'espoir, ne pas subir.
La présentation du documentaire « Nourrir l'espoir, ne pas subir ». Il sera projeté le vendredi 25 novembre à 20h à l'amphithéorium du Conservatoire d'agglomération à Bourg-en-Bresse. Et les femmes qui ont témoigné dans le film seront présentes. Le 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Pour en parler, je reçois deux invités, le réalisateur du documentaire « Nourrir l'espoir, ne pas subir ». Gilène Igora, bonjour.
Bonjour.
Et Joëlle Garraud, militante féministe, membre du collectif Solidarité Migrants. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez aussi animé sur les ondes de Radio B l'émission « Il n'y a pas que le 8 mars ».
Oui, tout à fait.
Alors, Gilène Igora, comment est né ce documentaire ?
C'est parti à la base d'une initiative qu'on a eue avec Bernadette Perrault, qui est l'ancienne présidente d'Emmaüs Servas. Et donc, en fait, on a toujours mené quelques actions pour pouvoir mettre en avant quelques problématiques qu'il y avait au sein de la communauté et ailleurs. Et donc, dans ce cas, on pensait tout simplement faire une vidéo qui parlerait du 8 mars et mettre en avant les femmes d'Emmaüs, car bien souvent, quand on parle de migration, on a le cliché d'hommes qui courent en direction de barrières en essayant de passer de l'autre côté. Et là, en fait, on se rend compte qu'en fait, par rapport aux statistiques, il y a beaucoup plus de femmes migrantes que d'hommes. Donc, on voulait mettre en avant ces femmes. Et on s'est dit que ça pouvait être éventuellement une possibilité de leur donner la parole, car bien souvent, on s'est rendu compte qu'on mettait en avant des femmes chefs d'entreprise, et c'est légitime, hein, des femmes qui avaient des hautes responsabilités, mais on pensait que la femme classique qui était là et qui galérait pour éventuellement se nourrir, pour éventuellement faire d'autres choses, et ben, elle avait toute une légitimité à être présente et avoir le droit à la parole.
Et vous avez interrogé ces femmes sur quel point ?
C'était le rapport qu'elles ont en étant une femme dans la société. Alors, dans cette interview, il y avait aussi éventuellement des personnes qui étaient bénévoles à Emmaüs, des personnes qui étaient employées et d'autres femmes qui étaient en activité et qui étaient en demande d'asile. Certaines ont eu un refus, d'autres étaient encore en suspens. Et donc, on pensait que c'était intéressant de pouvoir faire en sorte d'amener une palette de femmes avec des vécus différents pour pouvoir s'exprimer sur le même sujet, donc sur la problématique qu'elles ont en tant que femmes dans la société, parce qu'on s'est rendu compte que il y a eu l'élan MeToo. Alors, si c'était compliqué pour une femme blanche éventuellement de subir des violences, alors qu'est-ce que c'est pour une femme qui est éventuellement noire ou d'une autre couleur ou migrante tout simplement, et venant d'un pays où les droits de l'homme malheureusement sont très très peu respectés, quoi.
Et elles ont pu aborder sans souci ces questions de violence ?
Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a déjà fait quelques autres vidéos qui ont été présentes sur des autres thématiques, mais qui étaient sur une problématique de la migration et du droit, tout simplement. Et on a réussi à instaurer une forme de confiance, quoi, ce qui leur a permis de pouvoir se libérer un petit peu. Alors, c'était pas simple. Dans les premiers échanges que j'ai eus sur les autres sujets, on se rendait compte que c'était compliqué pour elles de parler, et pour eux, parce qu'à l'époque, il y avait des hommes aussi. Et au fur et à mesure, grâce aux résultats qu'il y a eu, il y a eu de l'impact sur certaines vidéos, elles se sont rendues compte qu'en fait, elles pouvaient éventuellement me faire confiance, quoi. Et grâce à ça, on s'est rendu compte qu'il y a même certaines qui nous ont confié en off qu'elles avaient peut-être plus dit en vidéo qu'à leur psy. Donc, c'est un peu une forme de thérapie pour elles, je pense.
Et pour vous, quand on entend ces témoignages ?
Bah, je suis un homme. C'est dur. Forcément, on se remet en question et c'est vachement émouvant. Je suis d'origine tunisienne, j'ai la double nationalité et je vois ce rapport à la problématique des hommes. C'est un tabou, même pour des personnes qui sont là depuis plus de 50 ans. Alors pour une femme, comme par exemple Tsehaï qui était présente et qui me dit « Mais en général, dans mon pays, on ne donne pas le droit à la parole. Les femmes ne parlent pas déjà. Elles ne se présentent pas devant la télé. » Donc déjà, d'être là et de parler d'une problématique aussi intense, moi je suis ressorti de ces séquences d'interviews bouleversant en me disant « Mais c'est hallucinant, en fait. » Ce qu'on voit à Arte, ça se passe de partout, dans n'importe quelle rue, quoi. Et c'est ça qui était intéressant, c'était de mettre le point sur la banalité du mal, malheureusement.
Qu'est-ce qui vous a marqué pendant ce tournage ?
Il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué, malheureusement, négativement. Et dans ce documentaire, on découvre une des personnes qui s'appelle Tsehaï, une femme qui a été esclave, moderne. Et je lui pose une question simple, je lui ai dit Tsehaï, à quel moment tu as décidé de partir en France parce que tu as quitté ton passé ? Elle me dit, mais en fait, je ne savais pas que j'étais en France. Je lui dis, mais comment ça, tu ne savais pas que tu es en France ? Et en fait, elle m'explique qu'elle a été amenée de force en France par un biais. Et donc là, je me rends compte qu'en fait, c'est encore plus complexe que ce que je pense, quoi. Donc malheureusement, des fois, les gens, ils se retrouvent ici et ce n'est pas la première intention, quoi.
Joëlle Garraud, une réaction à ce que vous venez d'entendre ?
Je faisais partie des personnes qui ont pu voir ce documentaire. Et effectivement, de savoir, là, par exemple, que quelqu'un qui ose dire qu'un jour, en descendant les poubelles, elle regardait comment elle pouvait s'enfuir, mais elle ne savait pas où aller, parce qu'elle ne savait même pas dans quel pays, dans quelle ville elle était. Et que ça, c'est ici, chez nous. On le sait, mais là, c'est en direct. Et franchement, même d'en parler maintenant, ça donne des frissons, quoi. Et alors, en même temps, ça donne des frissons parce qu'il y a des témoignages. Et en même temps, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, ces femmes, enfin, j'aime beaucoup le nom du documentaire, hein. Ces femmes, à un certain moment, c'est parce qu'elles avaient l'espoir d'avoir une vie autre qu'elles ont pu décider à un certain moment d'arrêter de subir les violences qu'elles avaient. Parce qu'au départ, si elles sont parties, une femme et les autres, mais les femmes, c'est toujours un peu plus, parce qu'en plus, il y a le fait d'être femme. Et dans le documentaire, elles le disent, hein, il y a certaines situations de violence, de viol, d'esclavagisme, qui sont là parce qu'elles sont que femmes. Et à un moment dans le documentaire, il y a des phrases qui ne se terminent pas, mais en fait, c'est ça qui se dit. C'est être femme, c'est ça, quoi. Être femme, c'est ça. On imagine bien que être femme, c'est un trou et un viol. Ouais.
En 2022, on en est où de cette lutte contre les violences faites aux femmes ?
Il y a des violences qui sont faites, mais en France, on parle principalement que des féminicides. C'est horrible, les féminicides. Hein. On ne peut pas dire que... Mais en fait, on ne parle que de cette violence-là. Dans le documentaire, on voit les autres violences, la violence d'une façon générale qui est faite. Déjà, le fait de partir, de se séparer, l'exil, et puis après, le fait de, sur le chemin, tout ce qu'on est obligé de vivre, parce que le chemin de l'exil est un chemin de violence, et puis après, toutes les violences qui existent quand on est ici, en France, et qui est plus une violence institutionnelle de comment on est accueilli et comment on peut vivre et comment on peut manger et comment toutes ces violences là qui sont importantes, et ça on en parle un petit peu moins, je trouve. En France, au niveau institutionnel, on parle beaucoup des violences faites aux femmes à l'intérieur de leur famille, ou et c'est vraiment vraiment à combattre, mais c'est une partie des violences.
Gilani Gora, qu'est-ce que ça représente pour vous la diffusion de votre documentaire le 25 novembre, Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes ?
Alors, ça représente beaucoup de choses. En tout cas, ça reste symbolique dans la date. C'est un acte parmi tant d'autres qui vont être faits dans ce sens-là. Et pour moi, c'est une tribune pour ces femmes-là, pour que la suite, elles puissent éventuellement avoir... que ça puisse avoir un impact positif sur leur vie, qu'elles aient éventuellement confiance et qu'elles ne regrettent pas de m'avoir confié tout ce qu'elles m'ont dit. Donc après la séance, elles auront le droit à la parole et j'ai hâte de voir ce rapport de proximité qui va se créer avec le public. Et j'espère de tout cœur que ça va leur permettre de pouvoir aboutir positivement, parce que dans ces familles, il y a des femmes qui se retrouvent encore séparées de leurs enfants aujourd'hui, qui ont dû fuir dans la précipitation. Malheureusement, elles n'ont pas pu partir avec leurs enfants. Et elles sont encore déchirées aujourd'hui. Et donc, je pense que ce combat, il doit être mené aussi pour faire en sorte que ces femmes, elles soient en capacité de pouvoir vivre dignement avec leurs enfants, leur famille, sans qu'elles soient persécutées parce qu'elles sont des femmes, entre autres.
Joëlle Garraud ?
Dans le documentaire, il y a une bénévole, Anna, qui dit on n'aurait jamais pensé que ces femmes-là puissent raconter tout ça et dire tout ça. Parce que c'est des gens qui sont toujours très gais, toujours très, très pleins d'énergie, etc. Et on se dit, en voyant ce documentaire, on s'est dit à plusieurs, faut qu'ils tournent ce documentaire parce que ça va donner la possibilité à d'autres personnes de pouvoir parler. Et c'est un petit peu dans ce qu'on a envie de faire. Les quelques personnes qui ont vu ça et qui ont dit, faut pas que ce documentaire reste là, il faut qu'il soit diffusé. On a vraiment envie de continuer. Et donc, à la suite de cette journée-là, justement du 25 novembre, il y a une autre date qui est le 17 décembre prochain, où il va y avoir la suite de ça avec les femmes qui veulent continuer à, pourquoi pas, à faire quelque chose pour le 8 mars, mais quelque chose qu'elles décideraient et qu'on déciderait ensemble.
Quelque chose à ajouter l'un et l'autre ?
J'aimerais dire que si on est là aujourd'hui, c'est grâce à toutes ces femmes qui sont réunies, qui sont mobilisées pour pouvoir créer un événement autour de ce film. Forcément, le film, ça reste quand même un prétexte, parce qu'en fait, c'est la problématique derrière qui est importante.
Que ça fasse évoluer dans la tête l'image et la représentation que certains ont encore de ces femmes qu'on appelle des migrants, mais qui sont des femmes.
Gilani Gorab, Joël Garraud, merci.
Merci à vous.
Merci.
Au revoir.
Gilani Gorab, je rappelle que vous êtes le réalisateur du documentaire « Nourrir l'espoir, ne pas subir ». Et Joël Garraud, vous êtes militante féministe, membre du collectif Solidarité Migrants. Et donc, diffusion de « Nourrir l'espoir, ne pas subir » le vendredi 25 novembre à 20h à l'amphithéorium du Conservatoire d'agglomération à Bourg-en-Bresse. Merci encore à tous les deux.
Merci, merci à vous.
Ça fait très plaisir de voir autant de cyclistes réunis à Bourg cet après-midi.
Là, on est sur des arbres qui ont un peu plus de 100 ans, 100, 120 ans.
En reportage avec Radio B.
Et on part aujourd'hui à Notre-Dame-des-Dombes à la découverte d'une abbaye méconnue. J'ai pu découvrir l'histoire et les coulisses de cette abbaye bien cachée, avec ses briques rouges entourées par la forêt, les champs et les étangs. Sa boutique permet aux passants, qu'ils soient en voiture, à vélo ou à pied, d'acheter des spécialités faites sur place, des friandises à base de pommes ou du fromage par exemple. Son histoire est aussi particulièrement intéressante, c'est grâce aux moines de Notre-Dame-des-Dombes que l'on peut cultiver des terres sur place. Benjamin, frère à l'abbaye, nous raconte.
Ici nous sommes au cœur de la Dombe, donc dans une abbaye... cistercienne, qui a été bâtie en 1870. Nous avons donc repris l'héritage des moines trappistes dans les années 2000, à travers les terres et les bâtiments qui ont été construits sur ce lieu. Pour un peu parler un peu de l'histoire, les moines, quand ils sont arrivés ici, il faut savoir que c'était un lieu insalubre, le cœur de la Dombe. Il n'y avait pas grand monde qui voulait y mettre les pieds. Donc l'abbaye d'Aiguebelle a essaimé ici en 1860. Un évêque, je n'ai plus son nom, mais qui a proposé en fait à ses moines de venir essaimer, c'est-à-dire de venir au cœur de la Dombe, vivre dans ce lieu, créer un monastère avec l'objectif d'assainir les eaux. Parce qu'en fait, il y avait de fortes fièvres, le taux d'espérance de vie était très bas. Et ces moines qui sont venus donc, autour de 1860, ils avaient comme objectif d'assainir les eaux, c'est-à-dire de combler une bonne partie des étangs de la Dombe et de pouvoir aussi drainer les champs pour pouvoir avoir un travail de l'agriculture plus sain. Donc ces moines, quand on regarde un peu l'histoire, on voit qu'il y avait à peu près 20 000 hectares d'étangs et aujourd'hui il en reste 10 000. Donc c'est vrai qu'il y a eu un gros travail de fait. On dit souvent que c'est une terre ingrate. Les terres ont commencé à être cultivées par les moines. Ils ont commencé à faire leur potager, leur verger. Voilà, donc ces moines ont été assez précurseurs aussi, au niveau de l'agriculture dans la Dombe aussi.
Aujourd'hui, cette abbaye est encore habitée par 60 religieux, des familles ou des personnes seules. Frère Benjamin nous fait visiter les différents lieux et nous explique le quotidien des résidents. Alors, on est où ici ?
Alors ici, nous sommes donc dans l'église, l'abbatiale. Donc dans l'abbatiale, on peut y voir donc les stalles. C'est là où en fait chaque jour nous venons célébrer la messe. Donc on s'installe dans les stalles et on peut aussi y voir l'autel, le chœur. Ce lieu-là, en fait, c'est le chœur donc de cette abbaye. C'est ici donc qu'on a les offices le matin, le soir. Et puis la messe de midi, chaque midi. Et puis on a aussi donc tous les dimanches une messe à 11h. À titre d'information.
Et donc les messes, c'est ouvert à tous ou c'est que celle du dimanche ?
C'est ouvert à tout le monde en fait, les messes, les offices aussi.
Donc là vous venez des fois vous recueillir aussi ou à des temps personnels ?
Alors voilà, donc notre vœu de en tant que religieux, on a un temps de prière chaque jour qu'on aménage en général le matin. Et c'est vrai que alors on choisit son lieu, sa pièce, ou que ça soit l'église ou voilà.
Et c'est un lieu, du coup, le matin, avant l'office ou après l'office, où on retrouve des frères et sœurs qui prient ici dans le silence. On retrouve donc l'hôtellerie ici. Donc on a bien une vingtaine de chambres qui aujourd'hui voilà, servent aussi à recevoir pour des retraites des personnes qui viennent pour une semaine, pour quelques jours, en étant nourries, logées sur place, pour prendre un peu de repos, pour se décentrer aussi et prendre un peu de temps dans le silence.
Donc vous dormez où, ceux qui résident ici, dans ce bâtiment?
Alors derrière le clocher, il y a un autre bâtiment grand comme celui-ci. En fait, il faut savoir que là, cette partie-là, la construction devait se terminer. En fait, l'hôtellerie devait continuer au niveau du parking pour se terminer au niveau du clocher. Et normalement, sur le plan, on y voit un cloître. Et il y a un second cloître qui est de l'autre côté. Et l'autre côté, donc le bâtiment est bien fini, donc ça fait comme un carré, je dirais, un bâtiment conventuel. Et c'est là donc où nous sommes, nous les frères. Ici, avant le bâtiment, on a une pièce d'eau. En fait, toute cette partie-là qu'on voit, ça a été creusé pour réaliser les briques de cette abbaye. En fait, en 1860... il y a eu 12 Belges qui sont venus ici avec leur savoir-faire et qui sont repartis en laissant 1 500 000 briques sur place pour construire l'abbaye, et avec la terre argileuse du coin. Et donc cette partie, ça, en creusant cette partie-là, on retrouve donc un trou assez conséquent et qui... Les moines, en fait, s'en sont servis pour canaliser les eaux de pluie qui ruisselaient de la toiture une partie des toitures pour finir dans cette pièce d'eau, et puis ensuite y pouvoir y mettre quelques carpes, voilà. Parce qu'il faut savoir que sur nos terres aussi, il y a aussi deux étangs, et sert moins aujourd'hui, je dirais, mais servait à la pisciculture, les carpes et les brochets. Ici, juste devant nous, nous avons la bergerie. Donc normalement, voilà, les moutons, là, ils sont rentrés, ils doivent faire la sieste, à mon avis. Et puis, donc en face, on voit les cochons. Et à droite, la fromagerie. Voilà, c'est là où le fromage se fait. Avec les bâtiments qui, dans le prolongement, forgerie, menuiserie, le local fruitier, où on stocke les pommes. Donc voilà, chaque bâtiment a son utilité et continue à avoir son utilité. Donc dans ce bâtiment-là, nous sommes dans la confiserie. C'est ici où on réalise la transformation des pommes, la transformation du coin. Ici, nous y faisons à la fois des pâtes de fruits à la pomme, des pâtes de coin. Nous réalisons la fameuse musculine donc, qui a été donc mise en place par les moines, fin du 19e, qui est donc cette pâte de fruits à base de viande bovine.
Il y a encore beaucoup de gens qui en consomment.
On essaie de le redynamiser un petit peu, redonner un petit coup de boost à la musculine. Souvent, c'est vrai que c'est des personnes du coin qui ont eu l'habitude, en fait, d'en manger dans leur enfance. Il y a quelques années, quelques décennies, on trouvait la musculine en vente à la pharmacie.
C'est sous quelle forme ?
C'est sous forme de pâte de fruits. Ici, nous rentrons donc dans mon domaine, responsable du verger de l'abbaye des Dombes. Donc, nous sommes dans le local fruitier. On fait le stockage des pommes, le stockage du jus de pomme. Je vais vous montrer un peu plus les bonnes odeurs que les pommes peuvent dégager. Le long du mur, là, on y retrouve des palettes avec une variété par palette qui servent à la vente en boutique des pommes. Je dirais qu'il y a trois axes pour les pommes. Le jus de pomme, l'autocueillette, donc la cueillette publique. Et puis, nous avons aussi des variétés qu'on vend directement à la boutique et certaines qui partent aussi à l'extérieur sur commande. Voilà.
Donc le bruit, là, c'est parce que c'est très frais, cette salle, c'est ça ?
C'est les ventilateurs qui tournent pour refroidir la pièce. Aujourd'hui, il y a plusieurs axes. Il y a à la fois la ferme. On a bien 200 hectares de terre autour de l'abbaye, avec des pâturages de vaches, des céréales, un verger aussi. Et puis, bien 30 hectares de forêt à peu près. On a des moutons, des cochons aussi, tout l'aspect de la ferme. Ensuite, on a aussi des étudiants qui viennent faire des études de théologie. Ici, avec la communauté donc, du Chemin Neuf, nous avons donc après une vie où chacun a son activité, on a chacun nos responsabilités. Responsable de l'hôtellerie, responsable du parc, cuisine, etc. Voilà, chacun un peu à son poste, intendance. Voilà, un peu pour expliquer comment on vit aujourd'hui, je dirais, ici.
C'était Frère Benjamin, résident à l'abbaye Notre-Dame-des-Dombes. À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute et on se retrouve lundi prochain à 18h sur le 90FM. En attendant, belle semaine sur nos ondes.
On n'ira pas aller chercher les enfants handicapés pour faire des activités, c'est nous, parents, avec des associations ou d'autres structures, qui devons faire le nécessaire.
Il n'y a rien à faire. Du coup, on propose un accueil jeune. Tu peux venir ici pour te détendre ou pour t'amuser.
Ce que j'aime dans la lecture, c'est que quand on met de l'émotion dedans, c'est comme si on faisait aussi du théâtre.
Il y a pas mal de personnes qui pensent comme nous sommes des étrangers. Il y a plus de négativité que de positivité en nous. On est venu ce soir pour montrer notre face positive.
On passe du stade d'un combat féministe à vraiment à un combat sociétal.
À vous, les Burgiens.
Présenté par Inès Lombartet et Audrey Radondi.